Hop là. Shalom, shalom le koulam, shalom à tout le monde. Voilà, on est bon, on est parti, on peut y aller. Ouais, c'est bon? Attendez, attendez, attendez. Hop là, voilà. Yofi, cette fois, on peut. Attends, oh là là. À trouver un bon emplacement, c'est compliqué. Yofi, Tov Shalom à tout le monde. Erev Tov et Koulam. Faites-moi juste un mini signe pour me montrer que vous êtes là. Eric Fison est là. Donc, si mon père est là, on peut y aller. Alors, Rabotai, on est lancé pour notre étude du livre de Bereshit. Si Baka Jérusalem est là, alors c'est bon, on peut y aller. Donc, quoi qu'il en soit, on va recommencer notre étude du livre de Bereshit. Et alors, je vous préviens tout de suite. Je vous préviens tout de suite que pour plusieurs raisons, on va faire un cours seulement d'une demi-heure. Alors, première raison, c'est les fameux Zoom des classes et machin et trucs et ignanimes comme on a fait la semaine dernière. J'ai pas réussi à gérer ça. Il faudra peut-être la semaine prochaine penser à faire plus tôt, tout simplement. Mais il y a une autre raison qui est plus importante que le zoom, c'est que là aujourd'hui, on va rentrer dans la dernière paracha du livre de Bereshit. Alors pour ceux qui nous ont rejoints dans les cours en vidéo, alors bon, pour eux ça change pas grand-chose. Mais pour ceux qui sont avec moi dans cette étude du livre de Bereshit depuis près d'un an et plus, hein, en fait. Eh bien, je ne voudrais vraiment pas que on termine notre étude trop vite, c'est-à-dire qu'on termine et qu'on fasse notre sioum pas en vrai, pas en live. Donc, le déconfinement commence. Je ne sais pas pour combien de semaines on en aura, mais je veux que notre dernier cours du livre de Bereshit, pour faire le sioum du livre de Bereshit, avec manger, boire et tout ce qu'on veut, eh bien, ça puisse être fait de manière déconfinée, qu'on puisse être ensemble. Donc, je ne vais pas faire des cours trop longs. Et donc, tant qu'on sera en mode confinement, eh bien, les cours du livre de Bereshit ne feront qu'une demi-heure pour que, bah, on se laisse le temps. On se laisse le temps pour arriver à notre dernier cours en mode déconfiné et qu'on puisse faire notre sioum comme il faut. Donc voilà. Oui, ça veut dire que je privilégie ceux qui sont à Jérusalem. Bah oui, c'est comme ça. Avec le même, quoi, 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 quoi? Avec le même MDP. Sais pas ce que ça veut dire MDP, mais avec le même, tu peux reprendre Zoom. Bon, faut m'expliquer ce que ça veut dire. Maintenant que ces introductions sont finies, eh bien c'est parti, on reprend donc notre étude du livre de Bereshit et c'est parti. Nous sommes donc toujours dans la paracha. Même mot de passe. Ouais, bon, pourquoi pas? Je peux prendre le même mot de passe et commencer avec un truc. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est pas Zoom. Le problème, c'est que je veux qu'on fasse ça en live pour de vrai. C'est-à-dire en contact avec les gens. Donc, j'espère que d'ici quelques semaines, eh bien, ben, ça y est, on pourra vraiment se retrouver, étudier et en chair et en os, dirait l'autre. Oui, non, je sais bien que c'est pas Zoom. Tu veux faire Zoom? Bon, mais quitte Zoom. Pour l'instant, on est en mode YouTube live et tout ira bien. Bon, ça fait 4 minutes qu'on blablote et qu'on n'a pas étudié encore. Alors, yalla, au boulot, c'est parti. Nous sommes donc dans le livre de Vayi, dans le livre de Bereshit, par cette Vayigash, au Perek, même Zayin, verset Yud Aleph. C'est-à-dire Perek, même Zayin, verset Yud Aleph, chapitre 47, verset 11. Pour ceux qui ont le chumash qu'on utilise d'habitude à Emouna, c'est page 191. Alors, c'est parti. Ça y est, Yosef a fait venir papa Yaakov. Yaakov est arrivé en Égypte. Tout Am Israël est en Égypte. C'est la première fois. C'est la première fois que Am Israël, plus seulement en devenir, puisque Abraham avait déjà été en Égypte, mais ce n'était pas encore Am Israël. C'est la première fois que Am Israël en entier descend en Égypte. Vayoshev Yosef et Aviv ve'et Echav, ויתן להם אחוזה בארץ מצרים במיטב הארץ בארץ רעמסס כאשר ציווה פרעה. Et voilà. Il les a mis dans le meilleur endroit de l'Égypte. Alors, on sait, et d'avant et d'après, que cet endroit en question s'appelle Eretz Goshen. On sait également pourquoi, d'après Pharaon, il les a mis là-bas. Parce que Pharaon, on a vu la semaine dernière, que Pharaon leur a dit, moi, je suis un berger. Attendez voir. Ah non, c'est bon, hein, on avait lu le reste. Ah non, autant pour moi. Je crois que je me suis un peu précipité. Si je ne m'abuse, j'ai été trop loin. J'ai été trop loin. Excusez-moi. 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 Autant pour moi. En fait, la semaine dernière, pas du tout. Je me reprends. On a sauté un passage. La semaine dernière, on s'est arrêté au décompte. On a fait le fameux décompte d'Ebné Israël, et on était arrivé à notre problème de mathématiques. Vous vous rappelez de notre problème de mathématiques? Que le verset nous dit, et je reprends le verset, donc en fait, chapitre 46, verset 27. Voilà, c'est là qu'on s'est arrêté. Excusez-moi, autant pour moi. « Ubené Yosef, asher yulad lo be mitzrayim, nefesh shenayim, kol nefesh le bet Yaakov abba mitzrayima, shivim. » Donc on avait décompté, la Torah nous dit que tous les enfants, tous les gens qui viennent, le Beth Yaakov, ils sont 70. Sauf qu'on avait décompté 66 enfants de Léa, Rachel, Bilha et Zilpa. 66 enfants plus Ephraïm ou Ménaché, 68, plus Yosef, qui fait partie quand même du Beth Yaakov. Je donne la référence du pasouk en hébreu, comme j'ai donné. Perek Mem Vav Pasouk Kaf Zain. Mem Vav Kaf Zain. Donc, 66 plus 1 plus 2, c'est-à-dire Yosef et Ephraïm Menaché. On arrive à 69. Et il faut faire compter également dans le décompte Yaakov. Donc, Kol Bet Yaakov Shivim. Le seul problème, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, Yosef, qu'on fait rentrer dans le décompte, ça ne marche pas, puisqu'il n'est pas à ce moment-là dans Bet Yaakov, puisqu'il est Eved les Paro. Donc, comment est-ce qu'on arrive à Shivim? Eh bien, Chazal vont nous dire que Yocheved est né à ce moment-là quand ils arrivent en Égypte. En fait, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas tellement comment on arrive à Shivim. Mais la Torah veut que tu saches, il y a Shivim, il y a 70. Comment tu t'arranges? On s'arrangera. C'est comme de la même façon, à chaque fois qu'il y a des chiffres donnés comme ça dans la Torah, le chiffre représente quelque chose d'idéal, de fixe. Le comment on arrive au chiffre peut varier. Exemple. Dieu nous a dit qu'on allait rester en terre étrangère pendant 400 ans. Dans les faits, on est resté en Égypte 210 ans. Donc nos sages vont dire, non mais attends, en fait 400 ans c'est depuis la naissance de Yitzhak. Parce qu'en fait, depuis la naissance de Yitzhak, Dieu avait déjà promis que c'était notre terre, mais c'était même pas notre terre, pas en Égypte, mais en Eretz-Canaan. Donc si on était en terre étrangère, depuis la promesse que Dieu avait faite à Abraham, qu'il aurait une descendance et qu'il aurait cette terre, eh bien en fait, depuis ce moment-là, on est en terre étrangère, mais prinatenu, de notre point de vue. Donc, on s'arrange. De la même façon, le prophète Jérémie dira que l'exil devra durer 70 ans. Et il y a à peu près 7 façons de compter différemment comment on arrive à 70 ans. En d'autres termes, Rabotai, ce qui est important n'est pas le comment on arrive à 70, mais on arrive à 70. Et la Sheela, c'est Lama. Pourquoi c'est important que Am Israël, il s'est 70. 40 coups. Ma 40 coups. 40 coups de quoi? Alors, je répète ce que j'ai dit. Les amis, vous êtes des tzadikim et des gdolé olam. Mais je n'arrive pas encore à rentrer dans vos têtes. Donc, si vous mettez comme ça des petites références, c'est super. Mais juste aidez-moi à comprendre les références. Qu'est-ce que tu entends par 40 coups? Et si tu parles des malcotes de quelqu'un qui se serait fait juger et condamné à 40 coups, alors là encore, effectivement, tu as raison. La question n'est pas de savoir comment est-ce qu'on y arrive, parce que la robe, on n'y arrive pas. Mais il faut que ce soit 40. C'est comme on va te dire que les melachot de Shabbat, elles sont 40 moins 1. On ne dit pas 39, on dit 40 moins 1. Parce qu'il y a un intérêt au fait que ce soit 40 et qu'on en enlève 1. C'est-à-dire que le chiffre représente un idéal qui est plus grand que la façon dont on y arrive. Alors, pourquoi c'est important d'avoir ici 70 personnes dans l'identité hébraïque? Eh bien, pour comprendre cela, il faut aller voir la fin de la Torah. À la fin de la Torah, dans la paracha de Nitzavim, dans la paracha de Azinu, qu'est-ce que je raconte? Dans la paracha de Azinu, on va nous dire « Yatsev gevulot amim le mispar b'nei Israël ». Il va mettre autant de peuples qu'il y a de b'nei Israël. En d'autres termes, les 70 membres de l'identité d'Israël à l'origine font référence aux 70 nations. Ce qui montre bien à quel point le peuple juif doit avoir un rôle à jouer auprès de ces 10 nations, ces 70 nations. Si vous voulez, dans l'idéal, dans les 70 enfants qui forment le Beth Yaakov de l'époque, eh bien, il faudrait en envoyer un en Shlichut chez tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un représentant de chaque nation. Concrètement, dans les faits, je ne sais pas, aujourd'hui on compte beaucoup plus de nations à l'ONU, mais on s'en fiche, on parle d'identité profonde. Alors, on reviendra aux 70 nations, vous n'en faites pas. Et il est évident que le peuple juif est parti dans 2000 ans d'exil, dans tous les endroits où il y avait ces 70 nations. Pour qu'il puisse, au moment venu, et ce moment venu, c'est maintenant, eh bien, servir de trait d'union entre Monsieur Goy et Akadosh Baruch. Parce que vous comprenez bien que le cours là qu'on est en train de faire, toute notre étude qu'on fait, et ça a pris un essor énorme depuis le corona, le confinement, nanana, c'est très bien, mais toute cette étude de Torah qu'on fait en français pour les Juifs qui habitent encore en France, c'est très bien, mais ce n'est pas une fin en soi. Cet objectif, c'est pour qu'un jour viendra où des Juifs francophones, ça peut être moi, ça peut être vous, eh bien, fasse le vrai boulot pour lequel on est payé là-haut, à savoir, savoir quoi dire aux Français, à la nation de France, à la francophonie, savoir quoi lui expliquer pour dévoiler à Kadosh Baruch Hu tel que lui le comprend. Et il y a des Juifs qui parlent anglais, c'est pour enseigner à la nation qui parle anglais comment il faut dévoiler Dieu. Et ce n'est pas la même chose. Je pense que vous le voyez bien, ce n'est pas vraiment le même judaïsme, mais je ne parle pas au niveau des minagim, je parle au niveau de là où on met l'accent. Vous regarderez que le judaïsme américain est très différent du judaïsme francophone. Et je parle uniquement chez les orthodoxes, hein, rentrez pas maintenant les réformés et tout ça, machin. On ne met pas l'accent sur les mêmes choses, de manière naturelle et intrinsèque. Parce que ce sont des identités humaines différentes. Donc, nous avons un rôle à jouer également auprès des nations, pour ceux qui n'étaient pas encore au courant. Donc, finalement, on est Shilim. Alors, maintenant, on revient dans notre histoire, puisque Yaakov, finalement, arrive chez Yosef, Yosef a gagné. Ça va être maintenant le monde version Yosef qui va prédominer. Seulement, on a dit Yosef, c'est l'ambassadeur. Yosef, vous savez quel est le problème d'un ambassadeur? C'est qu'à un moment donné, à force de faire des réceptions et tout ça, eh bien, il a pris fait et cause pour le pays chez qui il est. Et très souvent, l'ambassadeur, finalement, devient plus américain que les Américains. C'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'au final, Yosef, certes, il a gardé son identité juive, il sait qu'on a continué à dire « Gunov, Gunav, Timer, etc. » Ivrim, il est hébreu, et il le revendique. Mais dans les faits, c'est un Égyptien, une malassote. C'est-à-dire que il y a une influence énorme qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et jusqu'où va cette influence? Eh bien, Yosef a dévoilé un nouvel idéal juif, le ghetto. C'est-à-dire, je vis chez Monsieur Goy, pas vraiment, vraiment chez lui, comme ça, il n'influence pas sur l'éducation de mes enfants, sur mes rues sont fermées Shabbat, c'est tout ça. Mais je sors quand même du shtetl pour aller bosser. C'est-à-dire que je suis véritablement un Égyptien de confession israélite. Voilà, c'est gagné. C'est l'idéologie du yosefisme. Être un juif regardant sur toutes les coutures la halakha, il ne déroge en rien à la halakha, mais il est devenu quelque part égyptien. Yosef, c'est le consistoire. Yosef, c'est comment protéger la communauté juive à l'intérieur d'une puissance qui n'est pas la nôtre. Et bon, bah, pourquoi pas? Peut-être que c'est ça qu'il faut. Peut-être que Yosef a raison. Yosef a terriblement tort. Mais alors, terriblement tort. Et on ne saurait trop l'expliquer. Alors, oui, Yosef, ce qu'il nous apprend, c'est nécessaire pour survivre à l'exil. Ça, c'est évident. C'est-à-dire que si tu sors complètement te balader chez Monsieur Goy, tu t'assimiles. Et si tu n'as absolument rien à voir avec lui, bah, le goy te persécute à un moment donné, c'est tout, quoi. Donc, ce que dit Yosef, c'est nécessaire. Mais entre nécessaire et idéal, il y a énormément. Et c'est complètement faux de penser que c'est un idéal, parce que finalement, l'idéal yosefique, eh bien, va tout simplement diviser deux dimensions qui sont indivisibles dans le judaïsme. Le Rav Kook nous explique ça dans le chapitre 31 de Israël ou Triato dans le livre de Oroth, dans lequel il dit « Il y a des gens qui essayent de séparer à Inyan à Leumi vers Inyan à Dati, qui essayent de séparer la religion de la nation. Ils ont tellement tort parce que c'est indivisible dans le judaïsme. Dans d'autres nations, on peut créer la laïcité. Deux secondes. Comprenons deux secondes de quoi il s'agit. C'est extrêmement profond. Comment la laïcité, ça a pu marcher en Europe? En France, en Europe. Parce qu'il faut comprendre que les peuples européens sont les peuples chrétiens. Il y a qui ne soient plus forcément religieux aujourd'hui. Mais ce sont les peuples issus du christianisme. Or, le christianisme, par définition, à séparer l'Église et l'État. Il n'a pas fallu attendre la loi de 1905. Oui, bien sûr. Jacob est descendu en Égypte avec l'accord de Dieu, bien évidemment. Des fois, tu n'as pas le choix d'aller en exil. Et Dieu te dit, t'inquiète pas, je te protégerai. Mais la question, c'est une fois qu'on est en exil, quel est l'idéal, la marche à suivre? Est-ce que l'idéal, celui de Yosef? Je suis en train d'expliquer que pas du tout. Pas du tout, mais alors pas du tout, je ne sais pas du tout. En fait, de quoi parle-t-on? Les peuples chrétiens sont les héritiers du christianisme. Or, dans le christianisme, eh bien, à l'origine, on a séparé l'Église et l'État. Lorsqu'on nous raconte cette fameuse histoire qu'il y a eu une levée d'impôts de Rome, et les premiers chrétiens, disciples de Jésus, sont venus le voir en lui disant « Est-ce qu'il faut payer ?» Il a demandé qu'on lui donne une pièce. Sur cette pièce, il y avait l'effigie, un sesterce, l'effigie de César. Et donc, il a dit cette fameuse phrase « Il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. » En d'autres termes, une séparation complète du matériel et du spirituel, de l'Église et de l'État. Donc, à l'origine, le christianisme est complètement séparé entre Aïnian à Elohi, Aïnian à Dati, Aïnian à Léoumi. Alors que dans le monde de l'islam, par exemple, c'est complètement différent. Dans le monde de l'islam, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de dimension étatique. L'islam n'est que religion. Oui, il y a des États islamiques, mais le calife n'est pas un roi. Il est le chef politique, de facto, mais il n'est pas officiellement le roi. Quel est son rôle au calife? Il y a des gens qui veulent d'ailleurs être calife à la place du calife. Mais c'est pas bien d'être calife à la place du calife. Le calife, c'est quoi son rôle? Bah, calife, ça vient du mot halif. Et le halif, ça vient du mot en hébreu machlif. C'est le remplaçant de qui? De Mohammed, de Mahomet. Donc c'est d'abord et avant tout l'imam par excellence, le khalif. En d'autres termes, chez eux, sur le christianisme, l'islam, et je n'ai pas été dans toutes les autres religions, mais c'est pareil, eh bien, il y a cette séparation de fait. Alors que chez nous, la nation juive est née avec le lien à Dieu, avec la parole de Dieu. Que ce soit avec Abraham ou que ce soit quand on est sorti d'Égypte. Donc, on ne peut pas séparer les deux. Pour ce faire, eh bien, il ne faut pas que le Rosh HaYeshiva, le Gdol Hador en Égypte, ce soit Yosef. Et c'est la raison pour laquelle nous avons le verset qui suit. C'est parti. Vet Yehuda shalach lefanav el Yosef leorot lefanav goshna ve'avou arza goshen. Yaakov a d'abord envoyé Yehuda pour y monter, nous dira Rashi, Bet Talmud. En d'autres termes, Yehuda vient avec son yéhoudisme, son judaïsme, chez Yosef. Il dit, ok, on est chez toi, c'est toi qui gères au niveau administratif, politique, mais tu me laisses gérer le côté Torah. Et c'est quoi le côté Torah de Yehuda? C'est Imeshkacher Yerushalayim. Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim. C'est-à-dire, rôle religieux. Tu parles de Yehuda? Non. Yehuda, son rôle, c'est de faire bien comprendre à tout le monde que le fait qu'on soit en Égypte n'est pas une fin en soi, mais qu'il va falloir rentrer. C'est ça son rôle. Le rôle de Yehuda, c'est de rappeler qu'on n'est pas bien en Égypte. Comme un jour, il y avait eu cette conférence du professeur André Neher, qui était venu donner une conférence à Strasbourg, Ira Kodesh. Et à la fin de la conférence, où il avait montré à quel point il fallait tourner ses yeux et ses pieds vers Jérusalem, eh bien, un des vieux Strasbourgeois, j'ai pas de nom, mais de toute façon, ça peut marcher pour beaucoup de Strasbourgeois, eh bien, il lui a dit, mais monsieur Neher, vous savez, je comprends ce que vous avez dit, mais nous, ici, à Strasbourg, nous avons tout. Nous avons les écoles juives, nous avons les restaurants cachers, nous avons les chivotes, nous avons la communauté, nous avons tout. André Neher lui a simplement répondu, vous n'avez pas Jérusalem. Et il n'y a même pas à ajouter au débat. Donc Yehuda a pour rôle de bien rappeler qu'à un moment donné, on va sortir d'Égypte. Vayesor Yosef Merkavto, Vayal Likrat Israël Aviv, Goshna, Vayera Ela, Vayipol Al Tzavarav, Vayefk Al Tzavarav, Od. Et là, les retrouvailles tant attendues. Alors là, c'est Hollywood. Là, je peux t'assurer qu'ils ont mis de la musique derrière. Enfin, les retrouvailles entre Yosef et Yaakov. Joseph et Jacob, après tant d'années de déchirure, combien on a pleuré avec le personnage de Yaakov dans la saison 1 et combien on a pleuré avec le personnage de Yosef dans toutes ses péripéties dans la saison 2. Enfin, dans la saison 3, il y a les retrouvailles. Quel moment intense! Et la Torah nous dit que tout à fait naturellement, Yosef est tombé dans le cou de son père et lui a pleuré dans les bras. Et on comprend tout à fait les pleurs de Yosef. Ce qu'on comprend moins, c'est que il y a marqué Vayefk, et non pas Vayifkou. Et quoi, Yaakov, il n'a pas pleuré? Non. Nous dit Rashi, Yaakov, il n'a pas pleuré. Le mec stoïque. Le mec, ça fait 13 ans qu'on n'a plus de nouvelles de Yosef. Il a déchiré ses vêtements, il a cru qu'il était mort, machin, là. Là, il le voit, Ashkenaz. Pas une larme. Choum d'abord. Makara. Rachid va nous dire un truc complètement fou. Il dit non, mais il ne pouvait pas pleurer, il était occupé. Il faisait Kriyat Shema. Ok. Si Rachid le dit, mais sauf qu'attendez, s'il fait Kriyat Shema, si c'est l'heure du Shema, parce qu'il y a comme c'est un relige, tu vois, c'est l'heure du Shema, il fait le Shema. Mais Yosef aussi, c'est un relige. Donc si Yosef, c'est l'heure de Shema, il doit faire Shema aussi. On pourrait accueillir Yaakov qui fait. En fait, c'est quand qu'on doit dire le schéma ? Le matin, le soir. Le matin et le soir. Le matin, il y a une horaire. Le soir, il y a une horaire. Donc c'est bon. Ça, c'est la même pour Yosef et la même pour Yaakov. Mais il y a également un autre moment où tu dois dire le schéma. Beshoch Becha Fkumecha. Dieu le Talmud, c'est pour ça qu'on fait le schéma avant de dormir. Parce qu'il n'y a pas de plus grand va te coucher que quand tu meurs. Or, comme tu ne sais pas quand tu vas mourir, et ben chaque nuit avant de dormir, fais schéma. Sauf que si ce qu'on dit est vrai, il n'y a pas de plus grand lève-toi que Triat HaMetim. Donc, lorsqu'il y a Triat HaMetim, je vous demande à tous de bien vous rappeler que lorsque vous allez ressusciter, après votre mort, vous allez ressusciter, ben n'oubliez pas de faire le schéma hein, juste après la résurrection. Hein, c'est très important. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? On est face à Yaakov et Yosef. Qui a ressuscité ? Mais du point de vue de Yaakov, Yosef vient de ressusciter. Mais pas du point de vue de Yosef, puisque Yosef savait qu'il était vivant tout le temps. Donc ça, c'est une façon de voir les choses. De dire que Yaakov, il a fait schéma parce qu'il était en train de ressusciter. Ou du moins, c'est grave, parce que Yosef, pour lui, était en train de reprendre vie, concrètement. Mais il y a une autre raison qui est beaucoup plus profonde. Que Yaakov est en train de ressusciter. Enfin non, excusez-moi. Israël est en train de ressusciter. Israël, tout d'un coup, retrouve son identité. C'est ce qu'on a dit. Mais ça, on l'avait dit déjà avant. Quand Serach lui a appris qu'il y avait Yaakov et qu'il a vu la galotte, « Va te rivoir, Israël !» On avait déjà vu. Donc, en fait, c'est quoi la vraie raison de pourquoi Yaakov a fait schéma et pas Yosef ? Yaakov vient de faire Kriat Shema à la Mita. Parce qu'il sait que Israël, qui a ressuscité là-bas en Israël, quand il a appris la naissance, la vie en fait de Yosef, maintenant Yaakov est conscient que partant en Égypte, Israël va mourir. Il fait Kriyat Shema à la Mita juste avant de mourir. C'est ce qu'on nous dit ici. Vayev kal tzavarav od. Vayomer Israël el Yosef amuta apam. Achare reoti et panecha ki odecha chay. Il dit, maintenant, je vais mourir. En vrai, il lui reste encore 17 ans à vivre. 17 années. Mais Israël comprend qu'il ne peut pas continuer en Égypte. Et c'est vrai qu'en Égypte, celui qui continuera, celui qui portera la famille, c'est Yaakov. Et c'est important de voir cela, ces quelques versets, juste avant Yom HaAtzmaout. Parce que, pendant 2000 ans d'exil, on est redevenu Yaakov. On est redevenu Yaakov et on a survécu en tant que Yaakov. On a survécu en tant que Yaakov en n'oubliant jamais que viendra un temps où on redeviendra Israël. Et il est, depuis près de 73 ans, près de 72 ans, c'est ça, on est redevenu Israël. On est redevenu Israël. On a fait Kriat Shema chez la résurrection. C'est exactement de cela qu'on parle. Maintenant qu'on a mis en place les bases, eh bien, il va falloir tout simplement mettre en place les conditions d'acceptation de l'exil. Vayomer Yosef elecha vel bet aviv ele vagida le paro vayomra elaet achai bet avi asher beretz kenan baou elai. Ben oui. Maintenant qu'on a fait les retrouvailles tant attendues, bah, va falloir faire ce qu'on est obligé de faire quand on est en exil. Aller voir le patron. Et le patron, c'est qui ? Bah, c'est Pharaon. Quelle chute ! C'est-à-dire que tout d'un coup, on est ramené sur terre en disant qu'à partir de maintenant, bah, toutes les décisions, bah, ça sera Pharaon. Et même si tu me dis, non, mais attends, mais Yosef, il est le vice-roi, ce que tu veux, bah, Galout, ce n'est pas toi qui décides de ton destin. Ce n'est pas toi qui décides de ton destin. Tu peux avoir ton ghetto, tu peux avoir tes barrières autour de tes rues, c'est quand même pas toi qui décides. Et au final, bah c'est quand même le goy chez qui tu es qui décide tout ce que tu vas à faire. Ouais, bah oui, mais 71, t'as raison. C'est moi. J'ai trop envie d'être déjà à 73, c'est pour ça, n'importe quoi. Mais qui te sauve? Quand tu es là-bas, tu es soumis au bon vouloir du monsieur de là-bas. Alors, des fois, le monsieur, il est sympa. Et donc, t'as pas l'impression. T'as même l'impression, des fois, que tu peux vivre en autarcie. Il y a des quartiers dans certaines villes où tu as vraiment l'impression de vivre en autarcie. Tu vois pas un seul non-juif. Prends le quartier de Williamsburg, à Brooklyn, Borough Park, et autres, Crown Heights. T'as pas un non-juif qui est là-bas, à part le policier. Mais le policier, il n'est pas juif. Et il prend ses ordres du gouverneur de New York, qui prend ses ordres du président, qui prend ses ordres de sa fille, qui s'est convertie au judaïsme. Bon, c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple. Bon, ça veut dire, ok, nous, yalla. Vous avez compris ce que je veux dire. Bekitsour, on va dire à Pharaon qu'on est là et on va lui dire à quel point on peut l'aider. Ben oui, parce que le juif bagalout, s'il veut être bien accueilli, il faut qu'il montre qu'il a une valeur ajoutée. Donc, nous sommes des bergers. Donc, on peut t'aider. Vous direz à Pharaon, lorsque vous irez le voir, vous êtes des bergers, on est des bergers. Pourquoi c'est important que vous lui disiez, et pas que nous on est devenus, hein, on a une tradition de bergers. Parce que en Égypte, le dieu principal, Amon, il a une tête de bélier, donc c'est interdit d'être berger, on n'a pas de troupeau en Égypte, donc ils vont vous exclure de la société égyptienne, ils vont accepter de vous mettre à Goshen, dans le ghetto, comme j'ai prévu. Ok? Voyez Yosef, regarde les paroles, voyez Omer, Aviv, Achai, Vetzonam, Ufkaram, Bechol, Asher, Lahem, Baou, Beretz, Kenan, Veinam, Beretz, Goshen. Umikne Echal, Lakach, Hamisha, Anashim, Umikne Echal, Lakach, Hamisha, Anashim, Veatzigem, Mikne Paro. Finalement, il les amène chez Pharaon, il prend ses cinq plus grands frères, et il les présente. Voyez Paro, הלכב במעשיכם, ואמרו אל פרעה, רואה צאן עבדיו, עבדיך גם אנחנו, גם אבותינו. Nous sommes des bergers, comme c'était prévu. ואמרו אל פרעה, לגור בארץ בנו, on est venu temporairement, parce qu'il y a la famine. כי אדמירי לצאן, אשר לעבדיך, כי כבד הרעב בארץ כנען, ואתה ישבו לעבדיך בארץ גושן. Et donc on est venu temporairement pour passer la famine, on est venu s'installer à Goshen. ויאמר פרעה, אל יוסף לימור, אביך ואחיך באו אליך? ארץ מצרים לפניך היא, במיטב הארץ הושיב את אביך ואת אחיך, ישבו בארץ גושם, ואם ידעת ויש בם אנשי חיל, ושמת שרי מקנה על אשר לי? מצרים כאל סורפריז. פרעון די, ils sont venus, c'est super, ils sont bergers, mais génial. Tu vas les mettre à Goshen, c'est super, et tu sais quoi? Ils seront bergers de mes troupeaux. Tous mes troupeaux, c'est eux qui gèrent alors. Mais Pharaon, il a des troupeaux. Pourtant, on vient de dire que c'était une abomination pour les Égyptiens. Comment ça se fait que Pharaon, il a des troupeaux? Comment ça se fait qu'il accueille les enfants d'Israël aussi bien? Bien, les amis, ça, on verra la semaine prochaine. Chazak Baruch.